lettres et écrits des premiers Quakers suite, le texte en bleu clair ou en bleu clair gras peut être cliqué pour accéder à un renvoi à l'écriture ou à des détails dans les écrits. No. Lieli Rox à Margaret Fell, Londres, 19 jours du deuxième mois, 4e mois 1665. Chère Margaret, le dernier premier jour, nos réunions ont été paisibles en tout lieu dans et autour de cette ville, sauf au Bull, où ils en ont arrêté 12 qui ont été écroués. Depuis ma dernière lettre, 3 amis ont été embarqués sur ordre afin d'être transportés, dont je crois que T.S. vous a rendu compte. Le navire est parti à ce que j'entends des Downs. Le dernier 7e jour, T.S. Thomas Soltraus avec J. Moore sont allés à Kingston, où ils ont été arrêtés lors d'une réunion, ainsi que plusieurs autres, et ils sont emprisonnés, certains pour ne pas avoir fourni caution, comme j'entends, les autres pour un mois. Les choses, ici, concernant la vérité, vont aussi bien qu'on peut, considérant combien la puissance des ténèbres est dressée contre nous, et les amis demeurent encore en prison. On craint fort que nous perdions le Bull et le Mouse, ils passent en jugement ce terme à ce sujet, et l'affaire doit être jugée à la cour du banc du roi. La vérité est susceptible de beaucoup souffrir de cette perte, car c'était cela a été si connu et public à un lieu de réunion que cela a été très utile. Eli Rox d'après l'original, extrait de Christian Progress George Whitehead, au sujet de la mort de Robert Hay, alors qu'on le conduisait à bord d'un navire pour être transporté en Jamaïque, en l'an 1665, cet été même où la peste et la mortalité furent si grandes, les persécuteurs à Londres s'affairaient à expédier nos amis qu'ils avaient condamnés au bannissement et qu'ils retenaient étroitement en prison à cette fin. Ils commencèrent donc dès le début de l'année à contraindre nos amis à monter à bord des navires. Les premiers amis qu'ils embarquèrent furent Edward Brush, Robert Hay et James Boarding asterisque qui, le 24 jour du premier mois 1665 de grand matin, sans qu'on leur eût donné aucun avertissement en temps utile, furent précipitamment conduits de Newgate aux marches de Black Friar par quelques geôliers de Newgate, puis de la Gravesend, et là contraints de monter à bord. Edward Brush, homme très âgé, citoyen de bonne réputation parmi ses voisins et auprès de nombreuses personnes de qualité, fut ainsi expédié et banni loin de sa chère époux et de son enfant. Mais un exemple plus lamentable encore de la cruauté des persécuteurs dans cette entreprise fut que Robert Hay jeûnait et était faible de corps, ayant suivi un traitement. On le tira de prison et on le transporta par eau jusqu'à Gravesend. La saison était très froide et n'ayant reçu aucun réconfort ni soulagement extérieur pendant le trajet sur l'eau, il mourut à bord du navire peu de temps après y avoir été embarqué. Son corps fut ramené à Londres et enterré dans le lieu de sépulture de nos amis. Je connaissais ce Robert Hay, écrit George Whitehead, c'était un homme très innocent, affectueux, une bonne personne. Il avait un visage frais et agréable, paraissait en bonne santé et dans sa force et sa vigueur lorsqu'il fut d'abord emprisonné. J'ai été profondément affligé en apprenant combien vite il avait été expédié hors de ce monde, par la cruelle honteuse et le traitement inhumain qui lui furent infligés par ses persécuteurs sans pitié. No Lieli Rox à Margaret Fell, Londres, 22 au du troisième mois, 5e mois 1665. Chère Margaret, j'ai reçu votre lettre, et j'ai parlé à Gilbert Lattay, qui dit qu'il croit que cela a été obtenu à l'initiative même de Kirby auprès du secrétaire, car le juge ne peut les faire déplacer que par ordre de la loi. Le gouverneur du château de Scarborough est ici, en ville, c'est l'endroit où, disait-on ici, il George Fox devait être transféré. Le dernier premier jour, nos réunions ici ont été paisibles, seulement, au Bull, ils les ont tirés dehors et les ont laissés aller. J'entends dire que le roi a envoyé un ordre pour qu'on n'en envoie plus à Newgate à cause de la peste, qui augmente ici beaucoup, 30 en étant morts la semaine dernière à ce que j'entends. Les amis sont tenus étroitement à Newgate, maintenant environ 7-20. On parle d'en expédier 8 autres prochainement, sans doute vers le navire de bannissement. De votre ami affectueux, Eli Rox d'après l'original. No, Liv Morgan Watkin à Mary Pennington de Gatrose, 18 du 7e mois 1655. Le Gatrose était une prison où Morgan Watkins a été incarcéré. Chère Mary, dans la communion de la vie, je te salue tendrement. En elle tu peux me sentir, même si tu ne devais plus jamais me revoir. Car j'ai reçu à plusieurs reprises ces derniers temps ma vie mortelle de la main du Seigneur, et par la foi en sa puissance, car lorsque le messager de la mort aurait voulu entrer, il a été repoussé. Béni soit son nom, lui qui m'a gardé, ainsi que 19 autres ici en ce lieu étroit, tous en santé, depuis plus de 5 semaines, bien que 3 aient été enterrés de cette prison à cause de la maladie. Mais terrible et redoutable est la main du Seigneur sur toute chair dans cette ville méchante, et c'est la même sur la nation en général. Et bien qu'elle soit d'abord tombée lourdement sur les plus pauvres, pourtant la lie de la coupe est réservée aux gras, aux grands, aux orgueilleux et aux véritables oppresseurs. Bonne est la main du Seigneur envers les siens, dont la mort est un gain. Bienheureux ceux qui, durant le jour, ont travaillé diligemment. Maintenant la nuit vient, ils se couchent dans le repos et la paix. Mais pour les oisifs, la nuit les a surpris comme un piège, avant qu'ils ne soient arrivés à Salem, la cité de paix. Il s'élève un cri terrible. Et en vérité, les misères qui s'abattent ici sur beaucoup sont à peine dissibles, et pourtant la méchanceté n'est guère diminuée chez les persécuteurs, mais ils sont plutôt pires en cruauté, car ils ont trouvé un nouveau moyen de tuer les innocents et d'autres qu'ils tiennent pour ennemis, en les entassant dans des prisons infectées, et ainsi leur cruauté les exécute en peu de temps. Deux capitaines et un lieutenant y sont morts, et plusieurs autres sont ici, et rien ne leur est reproché. Beaucoup sont morts à bord du navire des amis bannis. Six d'entre eux, pris dans le pile et envoyés à Newgate, ont rendu l'âme, et environ 30 autres des deux prisons. Je suppose que tu as appris que Turney est mort. S. Fiché et John Shield sont décédés, ainsi que beaucoup, beaucoup d'amis. De nombreux médecins, qui font grand bruit pour arrêter la maladie, sont morts, et plusieurs prêtres. Plusieurs amis sont décédés au White Lion Prison. Les amis sont tenus à l'écart du boule, et le maire a fait clouer la porte hermétiquement, avec de grosses planches, mais je pense que les autres réunions sont paisibles. La maladie éclate avec une intensité brûlante dans la ville, et des milliers de plus meurent que ceux qui figurent dans les billets imprimés de mortalité, comme on me l'a assurément informé. Fugue, le méchant capitaine du navire, est encore au comté, ayant été arrêté et emprisonné pour dettes avant de pouvoir appareiller. Excessivement grande est l'épreuve des amis ici, que nul ne connaît sinon ceux qui y sont. Mon cher amour salue ton mari, ton véritable ami et frère, M.W. De la collection, Pennington, la peste de Londres de 1665, fut la première des trois calamités qui frappèrent l'Angleterre. Plus de 100 000 personnes moururent, l'herbe poussait dans les rues, une charrette parcourait chaque jour les rues, invitant les gens à apporter leurs morts. Les détails se trouvent dans le journal de George Whitehead sur ce site à Christian Progress. Beaucoup de Quakers moururent aussi dans cette peste, et George Whitehead a une lettre merveilleuse et chère au reste qui se vacate, expliquant comment Dieu avait puni leurs ennemis, tout en retirant aussi de nombreux Quakers à de nouvelles souffrances. On la trouve dans A Christian Progress de Whitehead. George Whitehead, sans liberté de quitter la ville, servit les Quakers mourants avec un grand courage et un effort remarquable, demeurant indemne de la maladie. Si vous n'avez pas déjà lu son récit de cette calamité, vous devriez. No. L.V. Lirox à Margaret Fell, Londres, 7 du 9e mois, 11e mois 1665. Cher M. F. Mon cher amour est pour vous et pour tous vos chers enfants. L'état de Londres durant cette effroyable visitation semble avoir été des plus déplorables. La description saisissante suivante est tirée des lettres originales d'Eli au British Museum. La lettre est adressée au Dr. Sancroft par J. Tillison et est datée du 14 septembre 1665, 4 jours avant la date de la lettre ci-dessus de Morgan Watkins. La désolation de la ville est très grande. Ce cœur est de fer ou de pierre, qui ne déplorera pas cette triste visitation et ne saignera pas pour ses douleurs indicibles. Quel œil ne pleurerait pas, voyant tant d'habitations inhabitées, les pauvres malades non visités, les affamés non nourris, la tombe non rassasiée. La mort nous fixe continuellement en face, en chaque personne infectée qui passe près de nous, en chaque cercueil qui, chaque jour et à toute heure, est porté le long des rues. Au début, la coutume était de n'enterrer les morts que la nuit. Mais maintenant la nuit et le jour suffisent à peine pour y parvenir. Les Quakers, à ce qu'on nous informe, ont enterré sur leur terrain 1000 personnes, plusieurs semaines de suite, ces dernières semaines. No. L.V. Eli Rox à Margaret Fell, Londres, c'est E du 9e mois, 11e mois 1665. Cher M. F. Mon cher amour est pour vous et pour tous vos chers enfants. J'ai été préservé en bonne santé, mais comme un tison arraché du feu, ainsi le Seigneur m'a délivré. Car j'ai souvent posé la tête dans la tristesse, et me suis relevé comme je m'étais couché, sans fermer l'œil, à cause des gémissements de ceux qui agonisaient. Et chaque matin je comptais pour une grande miséricorde que le Seigneur me donne un jour de plus. On nous tient à l'écart de la réunion au boule les 1er et 4e jours, mais le 5e jour nous nous y réunissons. Le dernier 1er jour, ils ont conduit Est Biddle et une autre femme en prison pour avoir parlé dans la rue, et ont frappé Est au visage avec leur lance à tête de hache. Nos réunions sont paisibles partout ailleurs. Les amis se portent généralement bien, en prison sur le navire, à Newgate ainsi que ceux qui sont en liberté. On n'enterre pas plus d'un par jour, alors qu'on en enterrait 16 ou 18, et parfois 20 par jour, et cela durant plusieurs semaines de suite. Voici une liste des noms de ceux qui sont morts à Newgate et sur le navire, lequel est encore là où il était. Suivent alors les noms totalisant ce qui suit. Mort condamné au bannissement 22 noms. Mort venu du pile 5 noms. Mort venu de Mill End 25 noms. Mort sur le navire 27 noms. Eli Rox d'après l'original No. Lvi Morgan Watkins à Margaret Fell, Londres, 5 du 10e mois, 12e mois 1665. Je suppose que vous avez entendu parler de notre libération il y a quelque temps. J'ai été assez faible, depuis que je suis sorti de prison et que je suis revenu à l'air libre, mais par le grand amour de mon Dieu, je suis merveilleusement préservé, à la louange de son nom. Mais les deux emprisonnements à Newgate et celui au Gatou ont beaucoup affaibli mon corps, dans lequel j'ai eu plusieurs combats avec la mort. Mais la puissance de mon Dieu s'est levée et m'a donné la domination sur la maladie et la faiblesse de la chair. Le jour a été terrible pour toute chair, et peu furent capables de le supporter et de se tenir dans le jugement. Mais le Seigneur a été très miséricordieux envers le reste de son peuple, et sa semence bénie se lève en beaucoup de vases. Nos réunions sont paisibles, sauf seulement au Bull and Mouse qui est fermé. On commence à voir paraître un grand nombre de visages inconnus et de bons visages honnêtes qui, avec de très grandes fins, ont reçu la vérité. Gilbert Latte est en bonne santé, et Amos Todar aussi, mais il a enterré sa femme. Alexandre Pock est à Bristol. Il n'y a pour l'instant ici aucun ami étranger sinon moi-même, et l'œuvre est très grande. George Whitehead est dans l'Essex. William Caton Astérisque est hors du corps décédé comme on me l'a rapporté il y a 2 jours. Astérisque, ce serait une nouvelle particulièrement mauvaise pour Margaret, car Will Caton était le compagnon d'enfance vivant chez elle de son fils. Il devint comme un second fils pour elle. Ils furent tous deux convaincus lors de la première visite de George Fox et grandirent ensemble dans le Seigneur, Margaret servant de mère, dans la chair et dans l'esprit, à Will. La ville commence à se remplir de nouveau. J'ai le décompte de 920 amis et enfants et serviteurs d'amis qui ont été enterrés dans notre lieu de sépulture, depuis le 25 du 1er mois 1665, mais je pense que guère plus de la moitié étaient des amis. Le navire, avec des amis à bord, est encore sur la rivière, et tous ceux de Newgate se portent assez bien et ont beaucoup de liberté. L'évêque de Salisbury est mort, et aujourd'hui j'ai entendu dire que Canterbury était mort, mais je n'en suis pas certain, et aussi un autre, mais j'ignore son nom. Ainsi pour l'instant, je demeure votre ami et frère véritablement affectueux, dans la communion de l'Évangile éternel. Morgan Watkins. D'après l'original, les lettres suivantes traitent du grand incendie de Londres, 1666, la seconde calamité que Dieu infligea à la nation anglaise pour ses persécutions contre le peuple de Dieu. No. Lvi Ellie Rooks à Margaret Fell, Londres, 2e du 8e mois, 10e mois 1666. Cher M. F., mon cher amour dans la vérité est pour vous, j'ai été récemment à la campagne, ce qui est la cause de mon absence d'écriture. Les gens sont ici dans une grande confusion, à cause de l'incendie survenu dans cette ville, à sa grande destruction et ruine, ce qui n'a pas été sans une juste cause de provocation du Seigneur par cette génération, qui s'est élevée contre le Seigneur, et dont les cœurs ont été livrés à l'orgueil et à la vanité, au lieu de chercher le Seigneur, mais plutôt à persécuter ceux qui étaient de véritables chercheurs de lui, et qui se réjouissaient de ses voix. Un jeune homme venu du Tintin-Donzir est venu avertir le roi de mettre les amis en liberté. Sinon, dans les 2 jours, une destruction surviendrait. Astérisque, il se rendit à Whitehall la veille de l'incendie. Mais on ne voulut pas le laisser accéder au roi. Toutefois, le lendemain matin, il y retourna et fut admis à lui parler dans la chambre de présence. La semaine dernière, un autre homme ami était ici, venu du Staffordshire pour parler au roi et remettre un papier. Et en vérité, c'est un homme très simple et honnête, et il portait un grand poids sur lui. Se rendant vers Whitehall le dernier 6e jour au matin, il rencontra bientôt le roi dans son carrosse, comme on le supposait allant chasser. Il s'approcha du carrosse, posa la main dessus et dit « Roi Charles, mon message aujourd'hui est pour vous, au nom du pauvre peuple de Dieu, affligé et souffrant. » Et lui donna son papier, dont les paroles étaient en effet pesantes, l'exhortant à le lire. Le roi dit « Comment pensez-vous que je puisse le lire maintenant ?» Alors il dit au roi que son message était pour lui, afin que le peuple de Dieu ait sa liberté hors de la grande servitude que vous et vos lois avez mise sur lui. Alors le roi répondit et dit que lui et son parlement devaient y réfléchir. L'ami lui dit, « S'il voulait considérer la mise en liberté du peuple affligé du Seigneur, cela pourrait être un moyen d'arrêter les jugements du Seigneur. Mais s'il continuait ses liens, le Seigneur Dieu multiplierait d'autant plus ses jugements sur eux. » Puis l'ami évoqua les souffrances des amis à Reading et lui dit que leurs souffrances criaient fortement aux oreilles du Seigneur contre lui, et qu'à moins qu'il ne les libère de la cruelle loi de Promunir, leurs cris ne seraient pas arrêtés, mais se retourneraient doublés sur sa tête. Alors le roi dit qu'il n'avait pas obéi à la loi de la nation. Alors l'ami lui dit que si les lois faites par lui et le Parlement étaient compatibles avec la loi de Dieu, il pourrait alors équitablement examiner s'il marchait contre elle. Et il l'exhorta ainsi à mettre les amis en liberté, sinon le Seigneur amènerait sur lui des jugements pires. et il lui dit que le Seigneur avait plaidé avec cette ville, par des pestes, par l'épée et par le feu, et ainsi il le quitta. Lorsqu'il arriva près du carrosse, le laquais lui ôta son chapeau, mais le roi lui dit de rendre le chapeau à l'homme, et il se montra très doux et modéré. Voilà l'essentiel pour l'instant, il s'appelle Adam Barfoot. J'ai sauvé votre livre du feu, et le dernier septième jour je l'ai remis à W. Warwick. Ellie Roxasterisk George Whitehead donne un récit complètement différent de cette prophétie, avec d'étranges circonstances autour de l'homme qui l'a délivré. Il s'appelait Thomas Ibot Wibi dans les récits de Sewell et Whitehead. Les deux hommes venaient du Huntingdonzir, mais leurs noms sont si différents, ce récit le nommant Adam Barfoot, qu'il est possible qu'il y ait eu deux hommes différents, avec des prophéties semblables pour avertir le roi. Dans les récits de Sewell et Whitehead, nous ne savons pas si Ibot a jamais averti le roi ou non. D'après l'origina, elle les récits donnés dans les journaux d'Evelyn et de Pepys, qui furent témoins oculaires du grand incendie de Londres sont, en vérité bien tristes. Evelyn écrit 3-7. Le feu continua toute cette nuit, si je puis appeler nuit ce qui était clair comme le jour à 10 000 tout autour, d'une manière effroyable, conjurée avec un violent vent d'est en une saison très sèche. J'allais à pied vers le bord de la Tamise à Southwark, et vis toute la partie sud de la ville brûlée depuis Cheapside jusqu'à la Tamise, et tout le long de Cornhill, Tower Street, Fanshawe Street, Gracious Street, et ainsi jusqu'au château de Bénard, et il gagnait maintenant l'église Saint-Paul. L'embrasement était si universel, et le peuple si stupéfait, que dès le commencement, je ne sais par quel abattement ou destin, ils remuèrent à peine pour l'éteindre, si bien qu'on n'entendait ni ne voyait que des cris et des lamentations, et des gens courant ça et là comme des créatures hors d'elles-mêmes. Oh, le spectacle misérable et calamiteux! Tel que le monde n'en avait peut-être pas vu de semblable depuis sa fondation, et qui ne sera pas surpassé avant l'embrasement universel. Tout le ciel avait un aspect de feu, comme le haut d'un four ardent. La lumière se voyait à plus de 40 milles à la ronde pendant de nombreuses nuits. Les pauvres habitants étaient dispersés vers St. George's Fields et Moorfield, jusqu'à Reigate et plusieurs milles en cercle. Certains sous des tentes, certains sous de misérables cabanes et masures, beaucoup sans un chiffon ni les ustensiles nécessaires, ni l'initable. Eux qui, d'une vie délicate, riche et aisée dans de nobles maisons bien meublées, étaient maintenant réduits à l'extrême misère et pauvreté. Vol. IP 372-374. Noël vit Alexandre Époque à Margaret Fell, Londres, 13 du 9e mois, 11e mois 1666. Cher M. F. Bien que, depuis quelque temps, je sois resté silencieux par cette manière de m'adresser à vous par écrit, mon amour n'en est nullement diminué, mais plutôt accru envers vous, et je me souviens souvent de vous dans vos souffrances, et vous, avec tous les fidèles en Christ, êtes chers et proches pour moi. J'espère que vous êtes, comme auparavant, sensible à l'intégrité et à la véritable simplicité innocente de mon cœur, tant envers Dieu qu'envers tout son peuple, car la vérité est mon délice, et je travaille dans l'œuvre et le service de Dieu. C'est ma nourriture et ma boisson que de faire la volonté de Dieu, et je suis pleinement résolu à y persévérer jusqu'à la fin. Depuis quelque temps, j'ai été à Bristol et dans ses environs, où l'œuvre de Dieu demeure très précieuse comme cherté. Seul Strauss peut vous l'apprendre. Depuis mon départ de là, j'ai eu un bon service pour le Seigneur en plusieurs endroits du Wiltshire et à Reading, où les amis se portent généralement bien, mais sont détenus prisonniers comme auparavant. Anne Curti est en liberté mais Thomas Curti, E.G., Lamble, E.J., Cole avec ses deux frères et environ 32 ou 33 autres sont prisonniers. J'ai aussi été à Wicon où les amis sont actuellement en bonne santé. John Rones a été beaucoup éprouvé dans sa famille, 5 y sont morts de la maladie, et ses deux filles ont frôlé la mort mais se sont rétablies. À présent, lui et sa famille vont bien et recommencent à sortir. Je suis allé à Aylesbury pour visiter Isaac Pennington et les prisonniers qui s'y trouvent, 4 en tout, qui allaient bien. De là je passais à Amersham, puis à Kingston, où je fus arrêté et emprisonné pendant 7 jours. Le dernier 4e jour, je suis arrivé dans cette triste ville en ruine, dont la vue a attristé mon esprit, considérant que la fin des malheurs n'est pas encore venue. Mais dans la volonté de Dieu, je suis satisfait, sachant assurément que dans, à travers et par-dessus toutes ces choses, la vérité s'élèvera et prospérera, et sera exaltée à jamais. De grandes craintes ont saisi les cœurs de milliers ici, et il a été beaucoup question d'un sanglant massacre projeté par les papistes, ce qui a suscité de grands débats aux chambres du Parlement, et aujourd'hui une proclamation est sortie contre eux, il est probable que vous n'en tarderez pas à voir le contenu. Les amis ici se portent généralement bien, et les réunions sont bondées et très paisibles. George Fox n'est pas encore venu dans la ville. Le dernier 6e jour au soir il couchait à Aylesbury, et le 7e jour il comptait passer chez William Barbey, à 4 milles d'Alban. On l'attendait ici ce soir. Nous espérons qu'il sera ici très bientôt. Nous sommes assez nombreux, frères ouvriers dans la ville, à savoir George Whitehead, John Whitehead, Thomas Law, Josiah Coal, Thomas Rolfe et moi-même. J'ai reçu aujourd'hui une lettre de Thomas Saltraus. S'il est avec vous, souvenez-vous de mon cher amour pour lui, et pour John et Margaret Rose, Sarah, Mary, Susan et Rachel Fell, avec tout le reste de votre famille et de vos amis, qui aiment et obéissent à la vérité. Mon cœur, dans le véritable amour de Dieu, est uni à vous tous, en cet amour je vous dis adieu, et je demeure, votre frère dans la vérité qui vit pour toujours, Alexandre Pank d'après l'original No. Lix William Callow à Margaret Fell, Londres, 6 du 1er mois, 3e mois 1668. Très cher bien-aimé, tous les amis ici en général se portent bien et nos réunions sont très remplies et paisibles en ce moment. Concernant les démarches des amis auprès de la cour, je n'ai pas besoin d'en dire quoi que ce soit pour l'instant, car Stubb, selon toute vraisemblance, vous informera. Ce qui pourra être fait, je ne le sais, mais que la volonté du Seigneur soit faite, à la volonté et à la puissance vivante duquel je me suis, avec beaucoup d'autres entièrement et librement abandonnés, et à ce qu'il voit bon pour nous, sachant par une bonne expérience pour notre grande consolation, qu'il ne permettra qu'on charge sur nous rien de plus que ce qu'il nous rendra capable de porter. Nous entendons que George Fox est allé dans le Berkshire et qu'il est attendu ici cette semaine. Il n'y a ici que peu d'amis dans le ministère maintenant, hormis John Bunyan et J. Coal, qui sont arrivés le dernier 7e jour, avec mon cher amour, William Callow d'après l'original apparemment, portant le cachet de la poste. Dans l'ouvrage de Bess, Sufferings, chapitre XX, sous Isle of Man, figure un récit long et triste des cruelles persécutions auxquelles cet ami, William Callow, sa femme et sa famille furent soumis. Des tentatives répétées furent faites, à l'instigation surtout de l'évêque de Lille et du gouverneur, pour bannir cet ami et d'autres, mais ils furent renvoyés, encore et encore, sur l'île par ordre des magistrats des districts d'Angleterre et d'Irlande où on les avait envoyés, en 1666 W. Callow vint à Londres et obtint du prince Rupert une lettre à l'attention du comte de Derby, intercédant en sa faveur, dans laquelle W. C. est décrit comme un ancien tenant du comte dans l'île de Man, et qui est maintenant, semble-t-il, devenu Quake, et pour cette raison banni du pays. Si, ajoute le prince, il n'y a rien de plus que d'être Quake, je présume que votre seigneurie pourrait être portée à le rétablir, lui et sa famille, dans leurs anciennes possessions, et c'est la raison pour laquelle je donne à votre seigneurie cette peine. La réponse du comte est concluante contre la requête, déclarant brièvement qu'il ne voulait pas que l'île soit infectée par le schisme, étant alors, comme il disait, nette de Quakers et de Dissides. Le récit des sévères persécutions contre cet ami et les quelques autres dans cette île occupe plusieurs pages une folio de Bess, qui conclut le tout par le paragraphe suivant. Ainsi avons-nous traversé une suite de persécutions presque sans égale, poursuivies pendant de nombreuses années, par le pouvoir arbitraire d'un prélat inexorable, contre un peuple chrétien inoffensif, sans autre cause que l'exercice d'une religion pure et le maintien d'une conscience sans offense envers Dieu et envers les hommes. La lettre de W. Callow porte un sceau avec cette devise, 1660. God above keep us in his light and love, le reste est brisé. L'une des lettres de Richard Farnsworth avait un sceau avec un crâne, et l'inscription Memento Mori, très généralement les initiales du nom des auteurs figurent sur les sceaux, une épée flamboyante, avec ses initiales, se trouvait sur l'un des sceaux de George Fox, qu'il a laissé spécialement avec d'autres articles dans son testament. No. Elix Thomas Saltraus à Margaret Fell, Londres, 19 du 3e mois, 5e mois 1668. Je vois que vous avez été informé que le Parlement est ajourné jusqu'au 11 jours du 6e mois, et rien n'est fait concernant le renouvellement du projet de loi pour le transport. L'acte des conventicules de 3 ans avait expiré. Les réunions ici et partout sont paisibles et semblent devoir le rester, autant que nous puissions en juger. Les amis ici sont maintenant résolus à presser le roi et le conseil de considérer les rapports de tous les comtés concernant les prisonniers dans les geôles d'Angleterre. Et à cette fin Thomas Moore a été mandé la semaine dernière et il est maintenant arrivé pour inciter le roi à poursuivre une si bonne œuvre. Le docteur Lowe a récemment accru son influence auprès de certains lords de la Royal Society, afin de plaider auprès du roi en votre faveur pour la liberté. Mais le cœur de Pharaon est si dur. Sont actuellement ici, parmi ceux qui œuvrent dans le ministère, George Whitehead, Josiah Coal, John Grave, James Batt, Samuel Saunton, John Stubb et Samuel Houghton, fils de la vieille Elizabeth Houghton. Nous avons eu ici, le dernier premier jour, de très grandes et précieuses réunions. Votre fidèle ami dans la vérité, Thomas Saltraus d'après l'original, adressé à Lancaster où Margaret était prisonnière, No. Lxi Ellie Rooks à Margaret Fell, Londres, 22 du 7e mois, 9e mois 1668. Cher M. F. J'ai reçu votre lettre datée du 15 du 6e mois, et j'ai été la plupart du temps avec George Fox dans le Hampshire et de ce côté-là, de sorte que je n'ai pas bien pu vous écrire une réponse. Cette dernière semaine, Thomas Moe a été deux fois auprès du roi lors de deux jours de conseil et lui a parlé des prisonniers. Le roi lui a dit qu'ils étaient trop occupés par d'autres affaires, et ainsi on l'a éconduit, et il n'est guère probable que rien ne soit fait. Si vous m'écrivez, adressez vos lettres à John Staple, épicier près des Three Cups, Aldersgate Street, Londres. Le Parlement est de nouveau ajourné. Ellie Rooks d'après l'original No. Lxi John Roos à sa belle-sœur, Sarah Fell, fille de Margaret Newington, le 15 du 11e mois 1668, premier mois 1669. Chère sœur, nous avons eu plusieurs précieuses réunions depuis la réunion générale, pour rassembler ceux qui se sont égarés, au cours desquelles la puissance et la gloire ont pénétré en eux si irrésistiblement que beaucoup ont été profondément brisés, et ont rendu des témoignages publics contre cet esprit qui les avait séduits et éloignés de l'unité des amis, au grand contentement des fidèles. La puissance a agi si efficacement parmi eux que les amis eurent peu besoin d'exposer le mal des voies qu'ils avaient suivies, car eux-mêmes en rendirent un témoignage suffisant. Les entrailles des amis se sont tant élargies envers eux que je crois que des réunions seront fixées pour les rassembler, aussi longtemps qu'il restera parmi eux des personnes honnêtes qui ne seront pas revenues au corps. Ton frère très affectionné, John Roos d'après l'original apparemment. John Roos mentionne aussi, dans la lettre dont l'extrait ci-dessus est tiré, que sa mère et Rachel s'y trouvaient, et que Rachel allait à l'école de Shacklowell. G. Fox avait conseillé l'établissement de cette école l'année précédente, pour instruire les filles et les jeunes demoiselles en toutes choses qui sont civiles et utiles dans la création. Journal 1667. Les Quakers furent les premiers à instruire les femmes afin qu'elles puissent gagner leur vie. Concernant ceux qui se sont égarés, ce fut la première scission sérieuse des premiers Quakers, et elle fut initiée par John Perrow. La question portait sur le fait que les hommes ôtaient leur chapeau pendant la prière. Perrow affirmait que cette coutume était une violation de la conscience et entraîna beaucoup de Quakers immatures dans une séparation sur ce point. Voir le récit d'Elwood sur Perrow et sur le fait de l'avoir rejoint par ignorance immature. Fox et la direction Quakemur travaillèrent très dur pour ramener avec succès la plupart d'entre eux dans le corps. Voir la lettre 214 de George Fox pour une discussion complète de cet esprit trompeur. George Fox, dans son journal, à la date de cette année, écrit « Nous eûmes un grand service à Londres cette année, et la vérité du Seigneur domina sur tout, et beaucoup de ceux qui s'étaient éloignés de la vérité revinrent cette année, confessant et condamnant leurs anciens égarements. Nous eûmes plusieurs réunions avec eux, et la puissance éternelle du Seigneur était sur tout, et porta le jugement sur la tête de ceux qui s'étaient échappés. Dans ces réunions, qui durèrent des journées entières, plusieurs de ceux qui s'étaient égarés avec John Perrow et d'autres revinrent, et condamnèrent cet esprit qui les avait conduits avec lui à garder leur chapeau lorsque les amis priaient, et lorsqu'eux-mêmes priaient. Certains d'entre eux dirent que, si les amis n'avaient pas tenu bon, ils seraient partis et seraient tombés dans la perdition. Thomas Elwood, l'un de ceux qui furent trompés en suivant cette fausse liberté, mentionne aussi la réunion mémorable fixée pour se tenir à Londres, par une ouverture divine dans le mouvement de la vie, chez cet éminent serviteur et prophète de Dieu George Fox, pour le rétablissement et le retour de ceux qui s'étaient éloignés de la vérité, et de la sainte unité des amis en cela, par le moyen et le ministère de John Perrow, un ministre autoproclamé. La brève allusion au sujet de cette assemblée générale dans la lettre précédente comprend beaucoup de choses frappantes et instructives. D'autres extraits de Thomas Elwood sur le même sujet méritent bien d'être ajoutés ici. Après avoir donné quelques informations concernant John Perrow et ses idées, Thomas Elwood poursuit en confessant que, dans le temps de sa propre enfance et de la faiblesse de son jugement quant à la vérité, il fut lui-même pris. Dans ce piège, mais le Seigneur, dans une tendre compassion pour mon âme, eut la grâce de m'ouvrir l'entendement et de me donner une claire vue du dessein de l'ennemi dans cette œuvre, et il m'en détourna. Mais lorsque cette réunion solennelle fut fixée à Londres, pour un travail de l'esprit en faveur de ceux qui s'étaient ainsi éloignés, afin qu'ils puissent revenir comme il convient et être sensiblement reçus à nouveau dans l'unité du corps, mon esprit s'en réjouit, et avec allégresse de cœur je m'y rendis, comme beaucoup d'autres de la ville comme de la campagne, et avec une grande simplicité et humilité d'esprit, nous reconnûmes honnêtement et ouvertement notre égarement, et primes sur nos condamnations et honte. Ainsi, dans le mouvement de la vie, les eaux guérisseuses furent agitées, et beaucoup, par leur puissance vertueuse, furent rétablis dans la santé, et en vérité, il n'y eut pas beaucoup de perdus. Et bien que la plupart de ceux qui revinrent ainsi fussent de ceux qui, comme moi, avaient auparavant renoncé à l'erreur et abandonné la pratique, nous trouvâmes pourtant sensiblement qu'abandonner sans confesser, en cas de scandale public n'était pas suffisant, mais qu'une reconnaissance ouverte des offenses ouvertes, aussi bien que le fait de les abandonner, était nécessaire pour obtenir une rémission complète. Ce récit complet est disponible à la lecture sur ce site web, Noel C. Eliroux à George Fox, Londres, le 18e mois, 10e mois 1669. Cher George Fox, mon cher amour dans la vérité éternelle et pour toi et pour M. F., je t'écris pour te faire savoir qu'hier matin notre cher ami Joseph fut à quitter ce corps à Kingston. Cette semaine, le Parlement vient siéger, ouvrir sa session législative. Je pensais que nous aurions pu te voir ici vers ce moment-là. Un compte-rendu imprimé des souffrances des amis et remis aux députés pourrait être très utile à leur première réunion. J'entends dire que les évêques ont l'intention de faire voter un nouvel acte contre nous, s'ils le peuvent, au Parlement, et la première infraction serait l'emprisonnement, et la seconde la confiscation des biens. Eliroux, d'après l'original, les deux chambres du Parlement, au printemps de cette année, adressèrent au roi une requête pour réprimer les conventicules dans Londres et Westminster et leurs environs. L'année suivante, 1670, elles procédèrent au renouvellement de l'acte contre les conventicules, après une interruption de 3 ans depuis son expiration. Il est remarquable avec quel empressement les deux chambres poussèrent cette œuvre de persécution. Le roi, cependant, publia encore une fois sa déclaration d'indulgence en 1672, et lors de la réunion du Parlement en 1673, la Chambre des communes examina de nouveau la déclaration d'indulgence du roi et présenta une autre adresse, ou plutôt une réprimande, contre elle, après quoi le roi, désireux de plaire à la Chambre, la révoqua de nouveau en 1673-4. Noel C. Eliroux à Margaret Fell asterisque désormais Fox. Asterisque Margaret, veuve depuis 11 ans, épousa George Fox le 27-08-1669, Londres le 16-11 mois 1669 1er mois 1670. Cher M. F., mon cher amour pour toi dans la vérité éternelle, qui est fort dans mon cœur et que je ne puis exprimer. J'ai reçu ta lettre de Bristol, et je serai aussi prêt à répondre à ton désir que je t'écrive parfois que je l'ai jamais été, car je t'honore, tu m'es, comme toujours, très cher dans la précieuse vérité. Je m'étais séparé de George Fox, mais maintenant j'ai été avec lui toute cette journée, il se porte très bien. J'ai reçu hier une lettre d'Anse Coton à Plymouth, et il m'informe que plusieurs amis d'outre-mer sont récemment arrivés en ce lieu, à savoir Robert Rodson, Christopher Bacon, Christopher Rold, Anne Clayton et 2 autres femmes amies. Anne, les autres femmes, et C. Rold sont partis vers Bristol. Hier, un ami nommé Richard Carvey était auprès du roi, il avait été le second de John Grove, un maître de navire. C'était l'homme qui avait été second du maître de la barque de pêche qui emporta le roi, lorsqu'il s'enfuit d'Angleterre après la bataille contre Cromwell à Worcester, et seul cet ami et le maître du bateau le savaient à bord. Il avait porté le roi à terre sur leurs épaules. Le roi le reconnut de nouveau et se montra très amical envers lui, et lui dit qu'il se souvenait de lui, ainsi que de plusieurs choses faites à bord au même moment. L'ami lui dit que la raison pour laquelle il ne s'était pas présenté plus tôt était qu'il était satisfait, ayant en lui-même paix et contentement, d'avoir agi pour secourir un homme en détresse. Et maintenant il ne désirait rien de lui, si ce n'est qu'il mette en liberté les amis qui souffraient beaucoup ou à peu près en ces termes. Il dit au roi qu'il avait un papier contenant 110 personnes qui avaient été frappées de prémunir et avaient été en prison environ 6 ans, et personne ne peut les libérer sauf le roi. Le roi prit donc le papier et dit qu'il y avait trop de noms sur la liste, et que s'il les libérait, il serait de retour en prison dans le mois. Le roi dit aussi que les gentilshommes des comtés se plaignaient auprès de lui d'être tant importunés par les Quakers. Il dit donc qu'il en libérerait si pour lui, mais l'ami pense qu'il ira le voir de nouveau, car il ne s'était pas pleinement soulagé. Tout est bien et tranquille ici par rapport à la vérité. Je suis pressé et ne puis écrire aussi longuement que je le pourrais quand j'aurai plus de temps, car il est tard, mais je demeure ton ami affectionné. Eliroux, d'après l'original, la lettre porte le cachet de la poste et est adressée pour Thomas Green, boutiquier à Lancaster pour M. F. Elle est annotée par George Fox ainsi. Eurux to M. F.F. of Page Concerning Richard Carvey that God the King of his Backy. 1669. Les détails décrits dans la lettre précédente de ce qui s'est passé lors de cet entretien avec le roi sont curieux et intéressants et, pourrait-on dire, pleins de caractère. Lors de la restauration du roi, nombreuses et pressantes furent les demandes de faveurs et de pensions de la part de ceux qui espéraient pouvoir faire valoir un quelconque service personnel rendu au monarque dans sa détresse, à une époque où une forte prime parlementaire était mise sur sa tête, et durant sa fuite extraordinaire de ce pays en 1654. Cela explique la remarque de Richard Carvey quant à la raison pour laquelle il ne s'était pas présenté plus tôt 9 années s'étaient écoulées depuis qu'il avait aidé le roi. la simplicité honnête de sa réponse et son appel désintéressé au roi en faveur de ses frères souffrant dans les prisons témoignent de la mesure du Christ chez Richard Carvey. No. LXV et Lirox à George Fox, Londres, le 15 du 12e mois, 1669, 2e mois 1670. Cher George Fox, quant à l'ami qui était auprès du roi, son amour est pour toi, il a été récemment auprès du roi, et Thomas Moe était avec lui, et le roi s'est montré très affectueux envers eux. Il eut une occasion belle et libre d'ouvrir son esprit au roi. Le roi a promis de faire quelque chose pour lui, mais lui a demandé d'attendre encore un mois ou deux. Je demeure ton ami fidèle, prêt à te servir, Lirox d'après l'original No. LXV et Lirox à Margaret Fox, anciennement Fell, Londres, le 27 du 3e mois, 5e mois 1670. Cher M. F., mon cher amour est pour toi dans la vérité immuable, exactement le même qu'il était dès le commencement, la vérité est ma vie et mon délice par-dessus toute chose en ce monde. J'ai plus de raison que tout autre homme de me souvenir de l'amour du Seigneur pour moi, parce que j'ai participé à tant de miséricorde, tant intérieure qu'extérieure, béni soit son nom à jamais. Mon cœur s'attache de jour en jour davantage à lui, et plus j'en goûte, plus je désire son amour et sa bonté. La principale raison de mon écrit est de te rendre compte de notre situation. Je pense que tu as entendu parler de ceci, comment George Fox fut arrêté le premier jour de la semaine après la promulgation de l'acte à Gracious Street pour avoir parlé au peuple au tribunal. Le maire fut très courtois envers lui, astérisque le dernier premier jour de la semaine, les réunions furent très tranquilles partout, sauf à Gracious Street, ils prirent W. Warwick et le firent comparaître devant le maire qui l'amanda. Tout le reste fut tranquille à l'intérieur, et les réunions très nombreuses, et tous les autres jours de cette semaine, tout fut très tranquille, et à l'intérieur, en tout lieu dans et autour de la ville. Le dernier premier jour de la semaine, ils interrompirent la réunion de Watson, le presbytérien à Devonshire House. J'étais là, et je les vis en emmener trois devant le maire, l'un d'eux semblait être un jeune prêtre non conformiste. George Fox est du côté de Walsham, et je pense qu'il ne viendra pas en ville avant la semaine prochaine. Le roi est à Douvres depuis deux semaines, on l'attend de retour aujourd'hui, et alors, on parle en ville d'une tolérance que nous aurons. Voilà l'essentiel de ce que j'ai à écrire pour le moment, de la part de ton ami affectionné, Lirox d'après l'original astérisque voir le journal de George Fox pour un récit détaillé de son arrestation à cette occasion. Ce fut une période de sévérité et de persécution renouvelée contre les amis, ainsi que contre d'autres dissides. L'acte contre les conventicules de 1664 resta en vigueur environ trois ans. Les souffrances des premiers Quakers furent nombreuses sous l'application de cette loi cruelle. Son exécution, remarque G. Whitehead, tendait à la grande oppression et à la ruine de nombreux sujets et familles innocents et paisibles du roi, surtout du peuple appelé Quakers, dont les persécuteurs, durant ces trois années, pendant lesquelles le dit acte était en vigueur, s'efforcèrent furieusement de débarrasser la nation par le bannissement, ou de les contraindre à se conformer à l'Église d'Angleterre, l'Église des persécuteurs. En l'année 1670, cet acte fut de nouveau renouvelé. On ajouta à cet acte renouvelé des clauses d'une rigueur encore plus grande qu'auparavant. Il devait être interprété le plus largement et le plus favorablement pour la suppression des conventicules, réunions tumultueuses ou séditieuses, menaçant la paix du pays, et pour la justification et l'encouragement de toutes les personnes devant être employées à son exécution. Extrait de l'acte. Les agents principalement employés à cette œuvre étaient généralement une troupe d'informateurs oisifs, dépravés et mercenaires, qui recevaient le tiers des amendes imposées par l'acte pour toute réunion sur laquelle ils informaient et qui aboutissait à une condamnation. Ainsi étions-nous exposés et livrés par une loi, pour être dévorés par des bêtes de proie, écrit W.M. Crouch, et ni notre innocence, ni nos propres maisons, selon l'ancien adage du droit, la maison d'un homme étant son château, ne pouvait nous défendre ni nous préserver d'être ruinés par des hommes déraisonnables et méchants. Neal ne semble pas un écrivain impartial lorsqu'il parle des amis de ce temps-là, le témoignage précédent venant de lui peut donc être jugé d'autant plus digne d'attention. Neal, dans son Histoire des Puritains, parlant des cruelles conséquences de cet acte contre les conventicules, s'exprime ainsi « Un grand nombre furent poursuivis sous cet acte, et bien des familles laborieuses furent réduites à la pauvreté ». L'acte fut exécuté avec une telle sévérité sous la mairie de Stirling à Londres que beaucoup de commerçants de la ville déménageaient avec leurs biens en Hollande, jusqu'à ce que le roi y mette un terme. Les informateurs étaient à l'œuvre partout, et s'étant glissés dans les assemblées religieuses déguisées, ils levèrent de grandes sommes d'argent sur les ministres et le peuple. Dans une lettre d'un archevêque à ses évêques à cette époque, citée par Neal, il écrit ainsi en allusion à l'acte et à ses effets « J'ai confiance en Dieu que, si nous faisons notre part dès le début avec sérieux, avec l'assistance du pouvoir civil, considérant le soin abondant et la provision que l'acte contient à notre avantage, Nous verrons en quelques mois un si grand changement dans le désordre de ces temps, que le peuple séduit reviendrait de ses enseignants séditieux et en quête d'eux-mêmes, à l'unité de l'Église. Astérisque remarqué, la fin justifie les moyens chez les épiscopaliens. Qu'importe que des gens soient réduits à la pauvreté, dépouillés de leurs biens, dépouillés de leurs meubles, dépouillés de leurs outils, dépouillés de leur nourriture, après tout, ce sont des gens séduits, ramenés à l'unité de l'Église. Et ainsi la prostituée s'enivrait du sang des saints. Après avoir évoqué les divers stratagèmes des ministres, non conformistes pour éluder les effets de cet acte, Neal entreprend de décrire la conduite des amis sous celui-ci. Le comportement des Quakers fut très extraordinaire et avait en lui quelque chose qui ressemblait à l'esprit du martyr. Ils se réunissaient au même lieu et à la même heure qu'au temps de la liberté, et lorsque les officiers venaient les saisir, aucun ne bougeait, ils allaient tous ensemble en prison, ils y restaient jusqu'à leur libération, car ils ne voulaient pas présenter de pétition pour être remis en liberté, ni payer les amendes mises à leur charge, ni même les frais de prison. Lorsqu'ils étaient relâchés, ils retournaient à leur maison de réunion comme auparavant, et lorsque les portes étaient fermées par ordre, ils s'assemblaient en grand nombre dans la rue devant les portes, disant qu'ils n'auraient ni honte ni peur de reconnaître leur réunion pacifique pour adorer Dieu, mais qu'à l'imitation du prophète Daniel, ils le feraient d'autant plus publiquement qu'on le leur interdisait. Certains appelèrent cela obstination, d'autres fermeté, mais par là ils atteignirent leur but, le gouvernement se lassant de lutter contre tant de résolutions. P. 073-676, Vol. Y. Histoire des Puritains, Nono, XV John Roux à Sarafel Wandsworth, le 15 du 6e mois 8e mois 1670. Chères sœurs, les réunions d'hier furent assez tranquilles, comparées à ce qu'elles ont parfois été. J'étais hier à la réunion de Gracious Street qui se tenait dans la rue, et, autant que j'ai pu en juger, plusieurs milliers y étaient, mais à cause de la multitude de gens grossiers qui venaient surtout pour regarder, cela ressemblait plus à une émeute qu'à une assemblée recueillie, ce qui me causa une peine non moindre de le voir. William Penn était là, et c'est lui qui parla le plus parmi tout ce qui fut dit. Il y avait quelques veilleurs, watchmen avec des piques à pointe de hache, et des mousquetaires vinrent pour le faire descendre pendant qu'il parlait, mais la foule se pressa si près autour de lui qu'ils ne purent l'approcher, mais pour prévenir un trouble plus grand, il promit, lorsque la réunion serait terminée, de venir vers eux, et ainsi lui et un certain Mid William récemment convaincu allèrent à eux. Ils les conduisirent devant le maire, qui les fit écrouer pour trouble à l'ordre public. J'entends dire que le maire fut très rude avec William Perm. Voir le compte rendu complet de l'incroyable procès de William Penn et de William Mead à L. Old Bailey, ainsi que les résultats remarquables qui influencent encore notre système judiciaire aujourd'hui. Thomas Biddle fut écroué depuis la réunion de Rosslydown pour avoir parlé. Beaucoup de réunions des professants astérisques furent dispersées et certains furent écroués, mais ils se cachent beaucoup, montant et descendant dans des trous et des recoins, et quand on les découvre, ils s'enfuient. Je n'ai pas grand-chose à ajouter pour toi, si ce n'est que nous allons tous bien, et rappelle notre cher amour à ma mère, à toi-même, à nos sœurs, à nos petits et au reste. Ton frère très affectionné, astérisque l'acte affectait les puritains, les baptistes, les presbytériens ainsi que les quakers. Mais les autres sectes étaient très détournées dans leur tentative de cacher leur réunion. Les presbytériens se réunissaient fréquemment avec tout le monde prêt à manger de la nourriture, au cas où les autorités feraient irruption, feignant qu'ils s'étaient réunis seulement pour manger ensemble, non pour rendre un culte. Cette pratique fut fortement interdite par Fox, comme étant hors de la vérité et une honte pour le peuple de Dieu. John Roos d'après l'original No. L'XVI Ellie Rooks à Margaret Fox Londres, le 5 du 1er mois, 3e mois 1671. Cher M. F., mon cher amour dans la vérité éternelle est pour toi et pour toute ta famille. Mon âme est liée à toi dans l'alliance d'amour et de vie. Et j'espère ne jamais te donner occasion de m'oublier, mais que je demeure encore dans ton souvenir lorsque tu invoques le Seigneur, car mes épreuves et exercices sont nombreux, et ma faiblesse corporelle m'est un grand exercice, mais j'ai cessé tout mon travail d'impression de livres à cause de ma faiblesse. Chère Margaret, tout mon souci est de pouvoir reposer ma tête en paix et me reposer avec le Seigneur Jésus, que j'ai aimé dès l'enfance, et en qui est ma confiance à jamais, lui qui m'a soutenu en toutes mes épreuves, troubles et exercices que j'ai rencontrés. Béni soit le Seigneur. Lui qui est un secours présent pour tous ceux qui se confient en lui au temps de leurs besoins. Voici un navire récemment arrivé de la Barbade, et je suppose que tu recevras de la part d'autres personnes quelques nouvelles concernant ton cher mari, très malade à la Barbade, qui, d'après ce que j'entends, est de nouveau très bien. J'ai vu une lettre de John Rull, qui a l'intention de revenir dans le navire de William Bailey ou de J. Freeman. Il semble que le conseil là-bas ait été très actif, s'efforçant de faire un acte à l'imitation de celui d'ici, contre les conventicules, mais ils rencontrent une certaine opposition, de sorte que cela pourrait n'aboutir à pas grand-chose. Il y a une grande levée forcée de marins, et un recrutement de volontaires à envoyer en France, de sorte qu'il est probable que ce soit un été lugubre. Deux ambassadeurs de Hollande sont ici, et d'après ce que j'entends, des offres très favorables pour un accommodement, et de l'Espagne aussi, ce qui fait courir la rumeur que notre roi resterait neutre et n'aiderait ni la France ni la Hollande, mais beaucoup en doutent fort. Les choses vont assez bien et tranquillement ici, concernant les amis et la vérité, seulement nous sommes encore tenus hors de nos réunions à Radcliffe et Willow Street, mais non par des soldats, et parfois on nous laisse entrer, lorsque le constable est modéré. Les choses sont aussi assez calmes en général dans les comtés, et la bonne semence pousse et croît au milieu des troubles qui sont dans le monde. Je demeure ton ami affectionné, Ellie Rox d'après l'original No, Lxix Ellie Rox à Margaret Fox Londres, le 3 du 8e mois 10e mois 1671 cher M. F. Mon cher amour est pour toi, dans ce qui est au-delà de toute expression, et bien que je sois extérieurement faible, le Seigneur sait pourtant que mon cœur est ardent envers lui, et il relève ma tête, autrement je défaillirais et succomberais. Le cher amour d'Anne Travers et de sa fille est pour toi. Les choses sont assez tranquilles et vont bien ici pour le moment. Le Parlement est prorogé jusqu'au 20 octobre 1672. Il est probable qu'il y aura de nouveau la guerre, on en parle, entre la Hollande et l'Angleterre, mais la France et la Hollande vont certainement entrer en guerre. La dernière grande tempête a causé beaucoup de dommages, plus de 100 voiles ont fait naufrage. On estime que Samuel Ellie est perdu, ainsi que deux autres navires d'amis, hommes et tout, William Bailey et J. Tipledy était dans la tempête mais furent préservés. Elle a rompu les digues dans le Lincolnshire et inondé le pays sur 12 000, emportant leur blé, leur bétail et leurs biens, et certains se sont noyés. On n'a pas entendu parler d'une tempête de cette ampleur depuis bien des années. Voilà l'essentiel de la part de ton ami affectionné, Ellie Rox d'après l'original No. LXX cette libération de prison de 500 Quakers, certains emprisonnés depuis 10 à 15 ans, fut une grande réalisation et un accomplissement significatif. Dans A Christian Progress de George Whitehead, un récit complet de la rencontre réussie avec le roi et des efforts de libération qui s'ensuivirent est donné et disponible sur le site pour lecture. Circulaire au shérif de la part du Conseil après nos cordiales salutations, attendu qu'une requête a été adressée à Sa Majesté, au nom des Quakers, qui demeurent actuellement dans diverses geôles et prisons de ce royaume, afin que Sa Majesté veuille bien étendre sa miséricorde envers eux et donner ordre pour leur soulagement. Ce que Sa Majesté l'ayant pris en considération a jugé bon, pour être plus clairement informé avant de se résoudre en quoi que ce soit à cet égard, de nous commander de vous écrire ces lettres, et en Et ne doutant point de votre prompte exécution de cet ordre de Sa Majesté, nous vous souhaitons cordialement adieu. De la cour à Whitehall, le jour de mars 1672. Vos amis affectionnés, George Whitehead à Stephen Crisp Londres, le 3 du 1er mois, 3e mois 1672 cher S.C. Avant que ta lettre ne me parvienne, j'avais rédigé un papier contenant la substance de la tienne, que avant d'avoir reçu la tienne Thomas Moe avait remis au roi, avec une liste des amis frappés de prémunir, et de se condamner au bannissement, ce qui, jusqu'ici, a été efficace pour une recherche plus approfondie concernant les amis, etc. Jusqu'où le roi et le conseil ont avancé, en réponse à la requête, je laisse William Crouch t'en informer. Ton papier est conservé pour une autre occasion, si besoin et si notre but n'est pas atteint par eux. Mais nous sommes encouragés à espérer pour plusieurs raisons. Je ne pouvais guère t'envoyer plus tôt, étant fort éprouvé au sujet des souffrants. Hier, le Conseil a signé les lettres au shérif pour qu'il renvoie au Conseil la liste des engagements des amis, de sorte qu'elles sont susceptibles d'être reçues promptement dans les divers comtés. Mon très cher amour à toi, à ta femme, à R. Crouch et aux amis, en date ton cher frère, George Whitehead d'après l'original Nono. Lxi John Rose à Margaret Fox Londres, le 4 du 2e mois 4e mois 1672 chère mère, le dernier 6e jour de la semaine, les deux femmes ont retiré l'acte au bureau de l'attorney général, et il leur a remis ses honoraires, qui auraient dû être de 5 livres, son clerc n'a pris que 20 s, alors que ses honoraires étaient de 40 s. Hier, elles sont allées avec cela auprès du roi, qui l'a signé au conseil, et Hollington l'a aussi signé, mais n'a voulu prendre aucun honoraire, alors que les siens auraient été de 12 livres ou 20 livres, l'homme de Williamson non plus n'a rien voulu prendre, disant que si une religion était vraie, c'était la nôtre. Demain, cela doit passer au signet, et au 6e jour de la semaine au sceau privé, et ensuite au grand sceau, ce qui peut se faire n'importe quel jour. La puissance du Seigneur a puissamment œuvré dans l'accomplissement de cela, et le Seigneur a merveilleusement incliné leurs cœurs en cette affaire, béni soit son nom à jamais. Ton cher fils dans le Seigneur, John Rousneau, Lxi Ellie Rox à Margaret Fox Londres, le 13 du 6e mois 8e mois 1672 cher M. F. Mon cher amour dans la pure vérité, en laquelle est mon soutien et ma confiance dans tous les exercices, et par-dessus toute chose périssable quelle qu'elle soit. Que le Seigneur me garde dans sa puissance, afin que je réponde à ses exigences en tout temps. J'ai reçu ta lettre, datée du 1er de ce mois, dont j'ai été grandement réjoui. La faiblesse de mon corps est telle qu'elle rend les exercices que je rencontre beaucoup plus pénibles, si bien que je suis souvent près de succomber à cause de cela. George Whitehead et moi avons été fort occupés cet été par l'affaire de la libération des prisonniers, et c'est une affaire si difficile à mener à bien que je n'en ai jamais rencontré de semblable. Elle est à présent entre les mains du secrétaire, déjà signée par le roi, et il ne manque que la date. Je l'ai déjà mise au net une fois, et elle contient ci des plus grandes peaux de parchemin que j'ai pu obtenir, et je dois la mettre au net une fois encore pour le bureau du signet, et de là, elle doit aller au Crown Office ou au Patent Office et être mise au net en écriture de chancellerie, ce qui, je suppose, fera au moins 12 pots. Si nous pouvions une fois la faire passer au signet et au sceau privé, j'espère que ce serait bientôt terminé. En attendant, il nous faut attendre avec patience. Nos réunions ici et dans la plupart, voire toutes les régions, sont très tranquilles autant que je sache. Je n'ai pas beaucoup plus à te faire savoir. Mon cher amour est pour tes filles et pour tous les amis. Je demeure ton ami affectionné, Ellie Rooks d'après l'original No. Lxi Ellie Rooks à Margaret Fox Londres, le 1er du 8e mois, 10e mois 1672 cher M. F. Mon cher amour dans la précieuse vérité est pour toi et pour toute ta famille. Je t'écris surtout pour t'informer que maintenant notre affaire, à laquelle George Whitehead et moi avons consacré tant de peines et de soins cet été, est accomplie, et sous le grand sceau, et deux doubles du même, également sous le grand sceau, l'original contient 11 pots de parchemin. Il y avait environ 500 personnes qui y étaient incluses. La manière dont nous la distribuerons aux divers comtés, nous n'en sommes pas encore pleinement résolus, mais nous pensons qu'une lettre du principal secrétaire du roi au shérif respectif, signifiant le pardon, peut être efficace pour les faire libérer, mais tu en entendras peut-être davantage à ce sujet dans la prochaine lettre. Je suppose que tu as entendu que le Parlement est prorogé. Tout est très tranquille ici, et il y a une grande ouverture dans la nation. Béni soit le Seigneur, qui établit sa vérité sur la terre, et se sert, dans sa main, d'instruments faibles et méprisés pour confondre les grandes et puissantes choses du monde. J'entends dire que John Stubb et Solomon Eccles sont prisonniers à Boston, en Nouvelle-Angleterre. Les amis ici, lors de la réunion trimestrielle, ont pris en considération mes peines et mes soins au service de la vérité, et sont disposés à me permettre d'avoir un homme pour m'assister, ce qui est pour moi un encouragement, et j'espère, avec l'aide du Seigneur, remplir ma charge fidèlement jusqu'à la fin. Voilà donc l'essentiel pour l'instant. De la part de ton ami affectionné, Ellie Rooks d'après l'original, les efforts incroyables de Whitehead pour achever la libération des prisonniers avant que le froid de l'hiver n'en tue davantage, détaillé dans son A Christian Progress, ont non seulement libéré les Quakers mais aussi d'autres dissides. Extrait d'A Christian Progress, ainsi, il y a quelques noms d'autres dissides qui étaient prisonniers dans le Bedfordshire, le Kent et le Wiltshire, dans le même instrument que nos amis, et qui furent ainsi libérés. J'étais très heureux qu'ils bénéficiassent du même avantage grâce à notre diligence, car lorsque nous avions ouvert la voie, il leur était facile de suivre. En vérité, je n'ai jamais hésité à donner à l'un d'eux des conseils, si je le pouvais pour les aider, lorsque certains d'entre eux se sont trouvés dans la gêne et sont venus à moi pour demander de l'aide. Le fait que nous fussions de jugement et de société différents ne diminuait pas ma compassion ni ma charité, même envers ceux qui ont été mes opposants dans certains cas. Parmi eux se trouvait John Bunyan, l'auteur du Pilgrim's Progress, un opposant déclaré des Quakers et de Whitehead, qui avait publié des livres très critiques à propos des Quakers. Béni soit le Seigneur mon Dieu, qui est le Père et la source des miséricordes, dont l'amour et les miséricordes en Jésus-Christ envers nous devraient nous obliger à être miséricordieux et bons les uns envers les autres, puisqu'il nous est demandé d'aimer la miséricorde, oui, d'être miséricordieux, aussi bien que d'agir avec justice, et de marcher humblement avec le Seigneur notre Dieu. Non. Lxiv Ellie Rooks à Margaret Fox Londres, le 10 du 10e mois, 12e mois 1672 cher M. F. Mon cher amour est tourné vers vous. J'ai reçu votre lettre, et je suis toujours heureux d'avoir de vos nouvelles et d'apprendre que vous vous portez bien, et je suis heureux d'entendre que vous êtes bien rentré chez vous. Nous n'avons reçu dernièrement aucune lettre de votre cher mari, alors aux Indes occidentales, ni de quiconque est avec lui, la dernière venait de John Stubb, de la Nouvelle-Angleterre. Je suppose qu'il est maintenant en Virginie ou dans le Maryland. Concernant l'affaire de la liberté des amis, elle est pleinement exécutée dans tous les comtés, sauf Durham, Cumberland, Lancashire et Monmouth au pays de Galles, où il reste encore à faire, tous les autres comtés sont libérés. pour Cumberland, j'ai envoyé au shérif, il y a environ 3 semaines, une ordonnance de mise en liberté, mais il semble, d'après une lettre que j'ai reçue de Thomas Toddy, que le shérif a été relevé de sa charge la veille. Ainsi, ce soir, par la poste, j'ai expédié une autre ordonnance de mise en liberté au nouveau shérif, ce qui, je l'espère, aura plein effet. Pour Durham, nous avons attendu l'arrivée de Gilbert Gérard, qui est venu mercredi dernier, et j'espère obtenir, d'ici quelques jours, une ordonnance pour libérer ses amis. À Lancaster, il n'y a que 2 amis dans cette prison inscrits dans le brevet, G.W. Et moi sommes allés bien des fois chercher le shérif de ce comté, mais nous ne pouvons le rencontrer. Toutefois, son adjoint a dit que c'est un comté palatin, et qu'il n'a aucun pouvoir sur les prisonniers, mais que le geôlier l'a, par brevet. Je pense donc que nous serons forcés d'envoyer l'un des brevets, qui devra lui être montré, à la première occasion possible. Je me suis occupé cette semaine ou deux du conseil, au sujet de Thomas Hudson et James Strutt, dont les navires et 2 autres sont arrêtés par ordre du duc, car ils ont rendu un ordre en conseil, portant qu'à compter de ce jour aucun bâtiment, petit ou grand, ne devra prendre la mer au départ d'aucun port d'Angleterre sans canon, de gros canons pour les grands navires, et de petits canons et des grenades pour les petits, et qu'ils devront fournir caution de combattre si besoin. Cet ordre a été obtenu par la pétition envieuse de quelques marchands de la Barbade de cette ville, ce qui tendra au grand dommage de beaucoup d'amis, dont toute la subsistance dépend du commerce maritime. Votre ami affectionné, Elie Rooks, d'après l'original extrait d'une lettre d'Elie Rooks à M. F. datée de Londres, le 24 du 10e mois, 12 mois 1672, cher M. F. Je vous ai écrit il y a aujourd'hui 15 jours, et je n'ai pas grand-chose à ajouter, sinon pour vous faire savoir que, après beaucoup de sollicitations, j'ai été l'instrument pour obtenir un ordre permettant à Thomas Hudson et James Strutt de passer à la Barbade. Ils sont partis pour les Downs, ce qui a été une grande satisfaction pour beaucoup d'amis, car personne ne croyait qu'on les laisserait partir. J'ai dressé une autre liste de paiements d'environ 50 autres amis, encore laissés en prison par omission et négligence des clercs de paix et des shérifs dans leur rapport, que j'ai l'intention de présenter lorsque le Conseil siégera de nouveau, après la fin des jours chômés. Je n'ai pas grand-chose de plus pour l'instant, sinon mon amour pour vos enfants Sarah, Susan et Rachel. Je demeure votre ami affectionné, Elie Rooks G.W., est hors de la ville en ce moment, d'après l'original No. LXXV Elie Rooks à Margaret Fox Londres le 9 du 11e mois 1673, 1er mois 1674. Cher M. F., mon cher amour est tourné vers vous et vers tous vos enfants. J'ai reçu votre lettre et je suis heureux d'apprendre votre arrivée saine et sauve chez vous. Et quant à votre mari, et Thomas Lowe, tous 2 emprisonnés à la prison de Worcester, George Whitehead, Thomas Moore et moi-même nous en sommes beaucoup préoccupés. Thomas Moore a lu votre requête au roi dans sa chambre et a eu 1 heure d'entretien avec lui. Il serait trop long de rapporter tout ce qui s'est passé entre eux, seulement ceci, il a été très aimable avec Thomas et lui a dit qu'il n'était pas disposé à faire une telle chose de son propre chef, mais qu'il souhaitait qu'il vienne au conseil, c'était il y a 1 semaine, le 6e jour, nous y avons assisté, le papier a été lu au conseil et l'affaire débattue. Et Thomas a parlé au roi après le conseil, et il lui a dit le résultat du conseil, qui était en substance ceci, qu'aucune loi n'ayant été violée par eux, ils ne pouvaient rien faire, mais qu'ils étaient renvoyés à la loi pour obtenir justice, ainsi, nous ne pouvions alors obtenir aucun secours dans ce cas. Le roi est très craintif, au moment même où le Parlement doit se réunir, de faire quoi que ce soit qui puisse leur déplaire, ses besoins d'argent étant si grands, ce qui pourrait quelque peu entraver l'affaire. Il y a aujourd'hui 1 semaine, nous avons envoyé 1 lettre de la mère de W.M. Penn au Lord Windsor, qui est Lord Lieutenant du comté, laquelle a été reçue, comme nous l'apprend George Fox. Nous espérons que le Lord Lieutenant sera influencé par la lettre de L. Penn, qui le connaît bien, afin que l'ancien piège du serment soit écarté aux sessions, G.W. Et moi n'avons pas manqué de retourner chaque pierre qui pouvait être utile pour obtenir leur liberté, et nous ne cesserons pas non plus d'agir en cette affaire. Mais je crains que rien ne puisse être fait avant le terme, à moins qu'il ne soit frappé de prémunir aux sessions, et alors il nous faudra de nouveau nous adresser au roi. Je me suis rendu aujourd'hui chez le Lord Trésorier, et j'ai une concession pour obtenir des ordres pour chaque comté, afin de remettre la part du roi des amendes, levées en vertu de la dernière loi. Si les amis du Lancashire en veulent un, faites-le-moi savoir, ils coûteront environ 40 shillings pièce. La Chambre des communes a siégé mercredi dernier, et le roi y était et leur a fait un discours, et le Lord gardien et président de la Chambre en a prononcé un éloquent, les pressant instamment de fournir promptement de l'argent pour poursuivre la guerre, montrant le danger d'un retard, et les mauvaises conséquences que la désaffection de son peuple aurait pour lui en cette conjoncture, et qu'il n'avait jamais eu plus besoin de leur concours, et que quoi qu'il manquât pour assurer la religion ou la propriété au-delà de ce qu'il avait fait. Ainsi, chère Margaret, je vous ai rendu compte de l'état des choses à présent, et dans cet amour vrai et sincère, qui a toujours été dans mon cœur pour vous, Je demeure votre ami, Ellie Rooks d'après l'original George Whitehead et Ellie H. Suelico Suelico K.E.S. à Margaret Fox Londres, le 27/11/1673 1674. Cher M. F. Notre cher amour, dans la vérité et la sincérité de nos cœurs, vous salue, vous et votre famille. H. Vous ayant déjà rendu compte de nos efforts et de nos travaux pour la liberté de votre mari avant les sessions, il nous revient maintenant de mentionner ce qui s'est passé depuis. Aux sessions, ils lui ont présenté le serment, à l'instigation de Porque Astérisque après quelques échanges, et une conduite correcte de la part des juges, mais ils ont relâché Thomas Lowe, prétendant qu'il avait de bons amis comme auparavant. Nous avons soupçonné que le docteur Lowe Astérisque Astérisque ne sollicitant que pour son frère, et obtenant une lettre au Lord Lieutenant seulement pour lui, pouvait être un obstacle à la liberté de George. Mais maintenant, au début du terme, nous avons obtenu un habeas corpus et l'avons envoyé à Worcester samedi dernier, afin de faire comparaître G. et sa cause devant la cour du ban du roi dans un délai de 10 jours. Depuis lors, nous n'avons pas encore eu de nouvelles, mais nous espérons bientôt savoir si le shérif l'admet. Sinon, nous pensons poursuivre pour en obtenir un autre. Nous avons agi en cela selon le désir de George Fox, ne doutant pas que, s'il monte ici, ces cautions seront plus faciles à obtenir, car selon toute vraisemblance, ils entendent le mener à une prémunir aux assises de Worcester. Nous sommes pressés, ainsi, avec notre amour pour tous vos enfants et les amis de votre région. Vos chers amis et frères, George Whitehead et Lee Rooks Astérisque le juge Pock, qui fut si sévère envers eux et les fit incarcérer. D'après le journal de Fox, voici le nœud de tous les problèmes des Quakers, tel que l'a reconnu le juge Pock. Suivez l'argent, alors le juge Pock lui dit. Croyez-vous, M. Lowe, que je n'avais pas de raison de faire emprisonner votre père Fox et vous, lorsque vous aviez une si grande réunion que le pasteur de la paroisse s'est plaint à moi d'avoir perdu la plus grande partie de ses paroissiens, si bien que quand il vient parmi eux, il lui en reste à peine dans sa congrégation. Astérisque astérisque, George Fox affirme que le frère de son gendre, Thomas Lowe, était le D.R. Lowe, l'un des médecins du roi, et qu'il avait sollicité le roi pour la libération de Thomas. Le roi l'avait accordé et avait envoyé un écrit le déclarant, mais Thomas l'a mis de côté parce qu'il ne prévoyait que sa libération à lui, et non celle de son beau-père, George. Noël XXV George Fox à sa femme Londres, le 6 du premier mois, troisième mot, 1674. Cher amour, mon amour est pour toi, et pour Thomas Lowe et sa Mary, et Sarah Rachel et Isabelle fille de M. F. et le reste des amis, dans ce qui est au-dessus de tout et ne change pas. Un livre astérisque a été remis au roi et au conseil, ainsi qu'aux deux chambres du Parlement, et ils reconnaissent généralement le bien fondé de la chose. Des amis ont assisté au Parlement, et ils ont été si impressionnés par l'affaire qu'ils avaient eu l'intention de faire quelque chose s'ils avaient siégé plus longtemps. Les amis en ont donné quelques-uns au maire, aux échevins et au Common Council, et ils les ont convoqués à la cour du maire, ont été très courtois, et ont généralement reconnu le bien fondé de la chose. J'ai envoyé à la Barbade en Écosse, en Irlande et en Virginie, pour que les amis en prennent la substance et la remettent à leur parlement, assemblée et gouverneur. Ils les chantent dans les rues. Je souhaite que, lors de vos réunions mensuelles et trimestrielles, vous en demandiez quelques-uns, et que vous les distribuiez aux assises à tous les juges, et à ceux qui sont au pouvoir, ainsi qu'aux baillis ou aux maires, car ils donnent une grande lumière aux gens obscurs. On en a donné aux juges et aux jurés, et les amis en ont distribué beaucoup à des officiers subalternes. Astérisque on pense que ce livre était « The Case of the People Called Quakers Relating to Oaths or Swearing » 1673. Catalogue de Whiting quant à ce que Sarah écrit, au sujet de quelques membres de la famille qui viendraient me voir, je ne peux guère dire comment l'on pourra disposer de moi, car ils ont sollicité la cour pour me faire descendre à Worcester et ont obtenu un habeas corpus et un mandat dans ce but. Il y a eu là-dessus un grand désordre et beaucoup d'agitation, mais la vérité est au-dessus de tout, et je suis entre les mains du Seigneur. Le roi ne peut rien faire, puisque cela dépend des juges et des shérifs, aussi suppose-t-il que je dois aller aux assises ou aux sessions de Worcester. Le saumon dont tu parles n'est pas encore arrivé, et ils ne savent ni par quel voiturier, ni où il loge. Je t'avais écrit auparavant, mais il y a eu un grand désordre autour de moi, et il y en a encore, mais le Seigneur agit parmi eux, et tout ira bien. Béni soit le Seigneur astérisque ainsi en hâte mon amour à vous tous. George Fox astérisque voir le journal de George Fox pour l'issue satisfaisante de son emprisonnement et de son procès. Londres mot 1/6/1674. D'après l'original, le tout étant de la main de George Fox avec cachet de la poste. Ellie Rooks à Margaret Fox Southwark, le 5 du 3e mois 5e mot, 1674. Cher M. F. Mon cher et tendre amour est tourné vers vous dans la vérité, qui est pure à jamais. Béni soit le Seigneur, dont les miséricordes demeurent à jamais, et qui a toujours eu égard à sa semence tendre, que l'ennemi a toujours cherché à déraciner et à empêcher de croître intérieurement et extérieurement, mais le Seigneur a été l'appui et la force des siens dans toutes leurs épreuves. Chère Margaret, je suppose que vous apprendrez par d'autres que votre cher mari a été délivré de son emprisonnement aux sessions, astérisque ainsi je n'ai pas besoin d'écrire longuement. On me dit qu'il vient à Londres, mon cher amour est pour tous vos enfants. J'espère que nous vous verrons ici à la réunion générale. De votre ami et frère affectionné, Ellie Rooks d'après l'original, Nono, LXXV. La lettre suivante se rapporte à un nouvel emprisonnement de G. Fox à la prison de Worcester, sous sentence de prémunir astérisque pendant qu'il était détenu dans cette prison, il tomba très malade, au point qu'on désespéra de sa vie. Sa femme, toutefois, intercéda auprès du roi pour sa libération, qu'il était disposé à accorder par une grâce, ce que George Fox ne pouvait accepter, car cela impliquait une culpabilité. Il fut alors amené une seconde fois à la barre de la cour du banc du roi, sur Habeas Corpus, le 11e jour du 12e mois, pour l'examen des erreurs de son acte d'accusation, qui se révélèrent si nombreux et si grossières qu'il fut annulé. Il fut alors libéré par proclamation, après environ 14 mois de contrainte, dans Ward de la prison. Astérisque la « prémunir » était une sentence légale sévère, dans laquelle tous les biens étaient confisqués et l'emprisonnement était à vie. Les biens immeubles pouvaient être restitués aux héritiers à la mort du prisonnier. Le bannissement avait été récemment ajouté à la peine. William Penn à George Fox Londres, le 1 du 10e mois 12e mot, 1674. Cher George Fox, mon amour ferveux et droit vous salue, j'ai votre lettre par la poste et par M. Pour votre affaire, il ne m'appartient pas de dire ce que j'ai entrepris, mais j'ai, avec beaucoup d'application, tenté de faire aboutir les choses autant que je l'aurais souhaité. Je suis encore résolu à donner un dernier coup d'épaule, de sorte que je ne puis vous écrire un compte rendu positif et définitif avant samedi prochain ou lundi. D'ici là, j'espère obtenir une réponse de ce grand personnage. Son oncle est mort récemment et lui a laissé 3000 livres de revenus annuels, et il vient de se marier, ce qui a détourné l'affaire. J'ai écrit au sujet du writ of error qu'il doit être reçu en séance publique, et que l'acte du jugement doit être certifié par le greffier au juge de la cour du banc du roi. Et si alors il apparaît qu'il y a erreur, pour obtenir un habeas corpus, vous en aurez un. Le roi ne sait pas que vous avez refusé une grâce, seulement que nous préférons une voie plus claire et plus conforme à votre innocence. Je suis à Londres, et j'entends dire, faire tout mon possible pour assurer votre libération. Le Seigneur Dieu sait que je prendrai votre place en prison pour vous délivrer, mais que la volonté du Seigneur soit faite. Cher Georges, les choses sont assez calmes, et les réunions très nombreuses, précieuses et vivantes, béni soit le Seigneur Dieu à jamais. Quant aux souffrances impressions des registres des souffrances des Quakers, j'en ai parlé à George Whitehead, ils disent qu'il n'y a pas de fonds pour un tel ouvrage, qu'ils n'ont ni presse ni matériaux pour un travail d'une telle importance, et que 1500 livres y suffiront à peine. Que le nom du Seigneur Dieu éternel soit béni et loué pour sa bonté et ses miséricordes, à jamais, dit mon âme. Il est notre rocher béni, la vie, la joie et la longueur de nos jours, la portion bénie de ceux qui croient et obéissent. Mon amour immuable va vers toi, cher Georges, et en lui je te salue, toi ta chère épouse et Thomas Lowe et Mary Lowe avec les amis. Je suis votre ami véritable et respectueux, William Penn d'après l'original, adressé à Edward Bourne, médecin à Worcester, pour G. F. D'une lettre originale de William Penn à George Fox, parvenue pendant que cette feuille était sous presse, datée du 29e 1674, on a tiré l'extrait suivant. Un lord, homme d'un esprit noble, s'est mis pour ainsi dire, avec affection en voie d'obtenir ta liberté. Il a obtenu du roi une grâce, mais nous l'avons refusée. Puis il a insisté pour une libération plus noble, qui répondait mieux à la vérité. Il a réussi et a obtenu la signature du roi sur une mise en liberté. Elle est retenue par le lord Keep, et nous avons et usons de toute l'influence possible. Le roi est fâché contre lui, et a promis très largement et avec affection, ainsi si nous avons été trompés, tu peux comprendre pourquoi. Les choses sont magnifiques quant à la vérité en ces contrées, et grande conviction sur les gens. No LXXV Alexandre Porc à George Fox Londres, le 27 du 10e mois 12e mot. 1675. Cher George Fox, mon amour très cher et sincère en Christ Jésus, est ici manifesté envers toi, cet amour pur et immuable, que le Dieu de ma vie a répandu dans mon cœur à l'aube de son jour béni, et qui vit dans mon cœur et s'écoule vers toi, en lui je te salue affectueusement ainsi que M. F. avec T. Et M. Le I. Isabelle, Sarah, Susan et R. Rachel Fell, avec tous ceux de cette famille dont les cœurs sont sincères et droits envers Dieu, Astérisque cher Georges, parce si tu peux savoir que les amis ici se portent généralement bien, et que nos réunions sont très nombreuses et paisibles, et que la puissance et la présence du Seigneur sont au milieu de nos assemblées. Nous avons récemment été éprouvés par Pennyman, Boas et Shadwell opposants, mais la puissance du Seigneur est au-dessus d'eux, et dernièrement nous avons été tranquilles. Hier, Boas et Shadwell étaient à la réunion de Gracia Street, Gracechurch Street, mais il y eut très peu de troubles, et la réunion se termina en paix, et toutes les autres dans la ville furent paisibles. Ce qui pèse actuellement sur nos esprits, c'est la division entre les deux Johns, John Wilkinson et John Story, et les Amis du Nord. Et bien qu'il y ait eu beaucoup de lettres échangées et des efforts employés, on a encore peu produit pour mettre fin à ces tristes déchirures. Il y a quelque temps qu'il me vient à l'esprit de t'écrire au sujet du choix des 6 amis devant descendre dans le Nord, pour revoir les questions et les choses actuellement en différent, parmi lesquelles je suis choisi, ayant été nommé par les amis lors de la réunion du deuxième jour, bien que je n'ai pas été présent au début de la réunion, car j'étais arrivé ce matin-là de Rickmansworth. Lorsque j'ai compris comment les choses s'étaient passées à la réunion ce jour-là, et que j'avais été choisi, cela m'est tombé comme un poids, et j'ai dit aux amis ce que j'en pensais, que je ne pouvais alors consentir, et j'ai demandé du temps pour peser la chose. Et vraiment, Georges, jusqu'à ce jour j'ai une étroitesse d'esprit, voyant très peu de chances de réconciliation, car les juges d'autrefois, à ce que j'entends, sont satisfaits de leur jugement et résolus à s'y tenir, comme certains l'ont dit. Or, si nous venions nous joindre à eux, et s'il advenait que nous différions sur certains points, ma crainte et ma sainte jalousie est qu'au lieu de réparer les brèches, on en fasse davantage, ce dont Dieu sait que je ne voudrais pas être l'instrument, car j'ai aimé la paix dès ma jeunesse et haï la discorde. Astérisque Story et Wilkinson ont conduit une séparation, sous prétexte de s'opposer aux réunions de femmes. Selon George Fox, ils s'opposaient en réalité à ce que la réunion de discipline puisse censurer leur conduite dans le monde. Ils prétendaient que leur conduite relevait de la conscience individuelle et que la réunion n'avait pas le droit de les censurer ni de les exclure des réunions. Beaucoup ont lutté contre ces séparatistes, essayant de les ramener. Ils ont été obstinés et les anciens Quakers ont finalement dû les désavouer comme Quakers. Ils sont restés dehors, mais ont bientôt dépéri, étant hors de la vérité et de l'ordre de l'Évangile. Voir la réponse de Fox à leur cri. Dans la première manifestation et l'œuvre de Dieu en nos âmes, il y eut une réconciliation avec Dieu en nos âmes et nos esprits, avant que nous fussions réconciliés et cimentés de cœur et d'esprit les uns avec les autres. Il faut aussi considérer ceci davantage. Dans cette conjoncture, une telle réunion peut-elle se tenir à la campagne sans trouble? Car il sera difficile d'avoir une réunion si privée des amis venant d'ici et de Bristol, sans qu'on s'en aperçoive. Ces choses avec d'autres sont des contraintes et des difficultés sur mon chemin, bien que je demeure résignée, et que je puisse être disposée à voyager des centaines de milles pour être utile au bien et à la paix de l'Église. Cher Georges, je désire recevoir quelques mots de toi. Je n'ajouterai rien de plus pour l'instant, mais je laisse toutes choses au Seigneur, désirant être guidée par sa sagesse en toutes choses, afin que, tant que j'aurai un être en ce monde, je puisse vivre pour sa gloire, lui qui me donne la vie et l'être. Je demeure ton frère, selon la mesure de grâce reçue de Dieu. Alexandre Pock d'après l'original No. L'XX Robert Barclay à Stephen Crisp Londres, le 3 du 5e mois 7e mot, 1676 cher Stephen Crisp, je sais que tu te réjouis d'apprendre la prospérité de la vérité dans ces contrées. J'ai appris de certains, qui ont été dernièrement auprès de la princesse Elizabeth, qu'elle parle beaucoup à l'avantage des amis, et qu'elle a dit que l'on avait fait de faux rapports sur les amis. J'ai enfin, après une longue et pénible attente, presque achevé mes affaires, car le duc de Lauderdale m'a dit hier qu'il avait reçu l'ordre de me donner une lettre pour le Conseil d'Écosse, afin d'accorder aux amis leur liberté, et il a promis de me la remettre demain, de sorte que j'ai l'intention, dans 2 ou 3 jours, de partir vers la maison. Mon amour est avec toi et ta femme. Je demeure, ton frère dans la vérité, Robert Barclay No. LXXX de la Réunion pour les souffrances aux amis Londres, le 21 du 11e mois 1680, 1er mois 1681. Chers amis, comme nous ne devons pas nous décourager dans nos efforts pour le soulagement des opprimés, malgré les déceptions présentes, nous désirons que tous les amis qui en ont la capacité, ayant liberté et clarté, se manifestent et fassent jouer toute l'influence utile qu'ils peuvent dans cette élection des membres du Parlement, en faveur d'hommes sobres, discrets et modérés, tels que vivent en amour avec leurs voisins, qui sont contre la persécution et la papauté, et qui se comportent avec douceur envers nos amis. Soyez très prudents afin de ne donner aucun juste sujet d'offense. Nous désirons que la sagesse de Dieu soit avec vous, dans l'accomplissement de votre devoir et de votre conscience en ces choses. Et puisque ce vote a été adopté par ce Parlement le jour de sa dernière prorogation, à savoir, l'1 au 10 mai, 10 January 1680. Résolu qu'il est l'opinion de cette chambre que la persécution des dissides protestants au titre des lois pénales, et en ce temps pénible pour le sujet, affaiblit l'intérêt protestant, encourage la papauté et est dangereuse pour la paix du royaume, nous désirons que les amis fassent un relevé particulier de toutes les persécutions et souffrances que des amis dans votre pays subissent contrairement à cette résolution du Parlement, depuis son adoption ou depuis le début de cette dernière session du Parlement, et qu'ils envoient ici un compte-rendu. Signé au nom de notre réunion pour les souffrances, Eli Rooks mourut environ 10 mois après la date de cette lettre, ayant été greffier de la société pendant environ 24 ans. No. LXXXI, la première de ces deux lettres relatives au décès de George Fox est probablement connue des amis, mais on croit que la seconde n'avait pas encore été imprimée. Londres, le 15 du 11e mois, 1690 à Henry Coward, Thomas Green, Thomas Docrey, Richard Barrow, William Higginson et Thomas Withers. Mes chers amis et frères bien-aimés, avec qui ma vie est liée dans l'alliance de la lumière gracieuse et glorieuse de Dieu, en laquelle consiste notre vie et notre paix. Tant que nous demeurons et habitons en elle, nous serons préservés près de l'océan de tout amour et de toute vie, et nous connaîtrons la fontaine décelée et ses jaillissements bouillonnés dans nos propres poitrines, en quoi nous pouvons boire ensemble en l'unique esprit, par lequel nous sommes scellés dans la jouissance de la puissance céleste qui sanctifie, dans le sens vivant et la vertu consolante de laquelle, selon la mesure, je vous estime tous très chèrement. Eh bien, chers amis, avant que ceci ne vous parvienne, je conclus que vous aurez reçu des nouvelles du départ de notre ancien ami et vénérable ancien dans l'Église de Dieu, George Fox, qui a été enterré aujourd'hui, en présence d'une grande assemblée vivante du peuple de Dieu, qui l'a accompagné jusqu'à la terre, et l'on estimait qu'il y avait plus de 4000 amis. La maison de réunion de Gracieshire Street ne pouvait les contenir, ni la cour devant la porte, beaucoup ne purent s'approcher assez pour entendre les témoignages. De nombreux témoignages vivants, ouverts et puissants furent rendus dans la maison de réunion, et beaucoup dans le cimetière, parmi beaucoup de cœurs attendris, d'yeux en larmes et d'esprits contrits. Les amis de Londres furent très avisés, ordonnant avec grande sagesse de toute manière tous les passages et dispositions s'y rapportant, cette ville comptant 6 réunions mensuelles, 6 amis choisis furent nommés et désignés dans chaque réunion mensuelle pour porter le corps, et nul autre, et que ses proches marcheraient tous près du corps, que tous les amis marcheraient d'un côté de la rue 3 par 3 en rang aussi serré qu'ils le pourraient, afin que l'autre côté reste libre pour les citoyens et les carrosses allant à leurs affaires. Le cimetière est une grande parcelle de terrain, et pourtant il était entièrement rempli, et quelques gens du monde y étaient. La dernière semaine, George Fox était à la réunion trimestrielle, à la réunion du matin du 2e jour, à la réunion pour les souffrances, et à 2 réunions de culte, outre la réunion du matin du 1er jour, qui se tenait à la maison de réunion de Gracieshire Street. Le 7e jour, il vint loger chez Henry Gouldney à White Hart Court pour être prêt, le 1er jour, de l'endroit où il devait tenir la réunion, et il dit qu'il s'était senti aussi bien dans cette réunion qu'il l'avait été depuis longtemps. Pourtant il commença à être malade le soir, vers la 5e heure de ce 1er jour, et il s'en alla avant la 10e heure du soir du 3e jour suivant. J'ai été avec lui la plupart du temps, là, il prononça de nombreuses phrases vivantes et puissantes, au point d'attendrir ceux qui étaient présents. Il n'y eut aucun signe de grande douleur sur lui, et il ne se plaint jamais. La manière dont Robert Wade a quitté ce monde et la sienne furent très semblables, car je les ai vus tous deux, seulement George ferma les yeux lui-même, et son menton ne s'affaissa jamais, ni n'eut besoin d'être soutenu, mais il demeura comme s'il s'était endormi, on aurait cru qu'il avait souri. C'était le corps le plus agréable que j'ai jamais vu, et plusieurs centaines d'amis vinrent voir son visage, ayant, pour la plupart, près de 3 jours pour le contempler, avant que le cercueil ne soit cloué. Les amis portèrent le cercueil sur leurs épaules, sans civière, drap ni couverture, mais le bois naturel, pourtant le cercueil était très lisse et bien fait. Eh bien, ami, environ 2 heures, ou moins, avant qu'il ne meure, il me prit par la main et me dit de me souvenir de son amour pour les amis là où je voyagerais. J'avais l'intention de sortir de la ville le lendemain, après qu'il eût commencé à être malade, mais le voyant souffrant, c'était l'avis des amis que je reste, et vois ce qu'il en serait de lui, et j'avais plus de liberté à rester qu'à partir. J'ai été heureux de voir une conclusion si céleste et harmonieuse que fit le cher George Fox. Le sentiment et la douceur de cela, je crois, ne me quitteront jamais, et dans la vertu céleste de cela, je désire demeurer et rester votre frère. Robert Barrow, P.S. Je pars demain vers l'Oxfordshire. Je vais maintenant vous donner la liste des amis qui ont pris la parole, et dans l'ordre où ils ont parlé, à savoir James Park, Robert Barrow, Ambrose Rigg, Joseph Batt, William Penn, Francis Camfield, Charles Marshall, John Taylor de York, Francis Stampé, George Whitehead, Stephen Crisp, et Thomas Green termina par une prière. Les amis qui ont parlé à la tombe furent les suivants. William Penn, Joseph Batt, George W. Whitehead, John Wotton et William Bingley. Je voudrais qu'une copie de ceci aille à Yalouse et une autre à Candale. Robert Barrow est né dans le Lancashire. Il a été un travailleur zélé dans l'Évangile pendant 26 ans et un fidèle souffrant pour la même cause à Londres. Lors de son voyage de la Jamaïque vers la Pennsylvanie, il fit naufrage sur la côte de Floride et, avec ses compagnons, fut contraint de débarquer parmi les sauvages cannibales du pays. Là, il endura de très pénibles souffrances, étant souvent en grand danger de mort de leur part. Il atteignit enfin la Caroline et de là gagna Philadelphie. Sa santé, ayant été si altérée par les mauvais traitements et les épreuves sévères qu'il avait subies en Floride, fléchit, et peu après il s'en alla paisiblement, attestant que le Seigneur avait été très bon pour lui tout au long jusqu'à ce jour même, d'après Piety Promoted Vol. Inno. LXXXI lettre à John Herey, donnant un compte rendu du décès de George Fox Londres, le 15 du 11e mois, 1690, premier mois 1691. Cher ami John Herey, je vous écris pour vous faire savoir que cet ancien homme, honorable et digne, George Fox, a quitté cette vie. Il était à la réunion de Gracechurch Street le premier jour dernier, et a rendu son témoignage parmi d'autres. Après la réunion, il fut pris de frissons glacés, et alla de mal en pis, et s'affaiblit jusqu'à la nuit du troisième jour dernier, entre 9 et 10 heures, où il mourut. Dans sa faiblesse, il demanda qu'on se souvienne de lui auprès de tous les amis, et il conseilla et exhorta les amis à se réfugier dans la puissance de Dieu. Il mourut doucement et tranquillement, et demeura conscient jusqu'à la fin. Après la réunion du quatrième jour à Gracechurch Street, tous ou la plupart des amis du ministère qui s'y trouvaient allèrent dans une chambre tout près, autant pour se consoler de la perte et de la mort de cet homme de bien, que pour prendre soin de son enterrement, qui est ordonné depuis cette maison de réunion demain, sixième jour, vers 4 heures de l'après-midi. Dans la chambre se trouvaient William Penn, Stephen Crisp, George Whitehead, John Taylor de York, William Bingley, John Wotton, Francis Tempe, John Field, Samuel Waldenfield, John Boucher et d'autres, et seulement, si je me souviens bien, trois d'entre nous n'étaient pas prédicateurs. Tandis que nous étions assis ensemble, profondément recueillis dans la considération de la perte de ce bon homme, la puissance merveilleuse de Dieu tomba sur tous ceux qui étaient dans la pièce, à tel point qu'aucun ne put se contenir, mais fut abattu sous le poids de cette gloire, si bien que, pendant un temps considérable, il n'y eut rien que de profonds soupirs, des gémissements et des larmes. Et après que tous se furent apaisés et que leurs esprits furent devenus tranquilles, plusieurs d'entre eux, sous ce grand sentiment, rendirent des témoignages à son sujet, trop longs pour être insérés ici. Lundi, un vaillant est tombé en Israël aujourd'hui, et sa place y serait vacante, si quelques fidèles ne suppléaient pas à la glorieuse station qu'il occupait. Un autre, c'était par sa foi, et avec lui que cet esprit et cette puissance qui, en si grande mesure, habitaient dans ce corps, devaient s'étendre à des milliers. Un autre rappela l'ancienneté de sa position, de son service et de sa fidélité jusqu'à la fin. Un autre encore, qu'il était une étoile fixe dans le firmament de la gloire de Dieu, et qu'il y brillerait à jamais. J'espère n'oublier jamais ce jour-là, son souvenir est doux. Il est ordonné que les anciens et les vieillards des amis prennent le corps en premier, et s'y sont choisis et désignés dans chacune des 6 réunions mensuelles autour de Londres pour porter, dont je suis l'un pour notre quartier, ainsi que J. Belliam, cette lettre est sans signature, et il est déclaré qu'elle doit être consignée dans un livre de registre des amis à North Shields No. LXXXI de la réunion du matin du deuxième jour à Londres, aux amis d'Irlande. Chers amis, notre cher amour dans le Seigneur Jésus-Christ vous salue. Cible à votre condition souffrante sous cette calamité publique asterisque, nous ne pouvons que compatir avec vous et prier Dieu de vous soulager et de vous apaiser, votre condition affligée étant souvent dans notre souvenir devant le Seigneur, auquel nous désirons que vous appliquiez chaque jour vos cœurs, dans une prière fervente avec supplication pour le soulagement et le soutien, et il se rapproche pour vous fortifier et vous consoler, lui qui est un Dieu qui exauce la prière, et un secours présent dans les temps de besoin, et qui entend. Asterisque la guerre du roi Guillaume d'Orange contre Jacques Yi, déposé, qui était revenu d'exil avec l'armée française pour débarquer en Irlande et mener une révolution, dans une tentative avortée de reconquérir la couronne. Son armée fut vaincue par Guillaume. Chers amis, nous vous faisons entendre par la présente que le lendemain de la date de l'épître ci-jointe qui vous est adressée par notre cher frère George Fox, à savoir le 11 jour du mois, il fut rendu capable de prêcher la vérité dans notre assemblée publique de White Hart Court, près de Gracechurch Street, Londres, et le même jour il fut pris d'une indisposition corporelle, plus que de coutume. Le 13 jour du mois, 13 janvier, 1691, soit 2 jours après, un peu après la 9e heure de la nuit, il plut à Dieu de le retirer du corps, auprès de lui-même, lui qui l'avait si longtemps fidèlement servi. Le 16, son corps fut enseveli depuis notre maison de réunion, à White Hart Court Susdi, étant accompagné d'une immense affluence d'amis et de personnes. Une solennité très céleste et bénie fut tenue, tant à la réunion qu'au lieu de sépulture. Son grand amour et son souci étaient pour les amis et la propagation de la vérité, et il vous a particulièrement mentionné le jour même de son départ. il resta lucide jusqu'à la fin et termina ses jours dans son fidèle témoignage, comme notre Dieu dans sa sagesse l'avait ordonné. À la puissance divine et aux soins de celui-ci nous vous recommandons, et dans son tendre amour en Christ Jésus, nous demeurons vos fidèles amis et frères George Whitehead, Stephen Crisp, James Park, John Elson, Peter Price, William Bingleno. LXXXIV, la dernière lettre à présenter dans cette division de l'ouvrage est de Thomas Elwood. Elle concerne la préparation par lui, pour l'impression, du journal de George Fox, qui fut publié en 1694. Ses autres œuvres, c'est-à-dire ses épîtres et sa collection doctrinale d'écrits, suivirent les premières en 1698, la seconde en 1706. On croit que beaucoup de diligence et d'efforts furent employés à rassembler, de divers endroits, les écrits de George Fox pour la compilation de ses ouvrages. Thomas Elwood à John Field, Inge Hill, le 16 du deuxième mois, 1693. Cher ami, j'ai reçu aujourd'hui votre lettre du 11, et je vous prie de faire savoir aux amis que le journal de notre cher George Fox est, je l'espère, presque entièrement transcrit, car bien que quelques années restent encore à mettre en ordre, comme il s'agit de la dernière partie de son temps, elles fourniront moins de matière que les premières années n'en ont donné. Je suis maintenant à l'année 1684, et je le fais tout juste revenir de Hollande, de son second et dernier voyage là-bas. Je voudrais avoir pu l'expédier avec plus de célérité, mais je puis assurer les amis et vous-même que je ne l'ai pas négligé ni traité avec paresse. J'ai beaucoup d'autres affaires publiques qui pèsent sur moi, et quelques-unes privées, qui ne peuvent être entièrement négligées, mais le principal de mon temps a été consacré à ce service. Quant à le hâter vers la presse, les amis peuvent faire comme il leur plaira, mais si l'on m'accorde la liberté d'offrir mon avis, je pense qu'il serait bon que l'ensemble fût relu de nouveau, avec délibération et soin, avant d'être confié à la presse, afin que rien ne soit omis qui convienne d'être inséré, ni rien inséré qui convienne d'être laissé de côté. J'ai laissé plus de 200 feuilles à William Mead l'été dernier, et j'espère qu'il les a relues depuis, avec plus de loisir que nous n'en avions alors. Ainsi, si les amis sont pressés de mettre la presse à l'ouvrage, j'ose m'engager, si Dieu veut bien me donner vie et santé, qu'il ne manquera pas de copies lorsque l'impression sera décidée. Pourtant, dans un ouvrage de ce genre, je préférerais l'exactitude à la vitesse. Je suis censé assister à la réunion annuelle, et j'espère qu'à ce moment-là je pourrai donner un compte-rendu plus détaillé de ce qu'il reste à faire. Cependant, dans un amour très cordial envers les amis, envers vous-même et votre épouse. Je demeure votre véritable ami, Thomas Elwood, d'après l'original adressé à John Field, Mercier, à l'enseigne du Rao, George Yard, Lombard Street à Londres. Lettre historique suite.